Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jérôme Fourquet.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio ce matin pour analyser pour nous ce nouveau gouvernement. Vous êtes le directeur du département Opinion et Stratégie de l'IFOP et votre dernier livre, c'était La France d'après. Est-ce que c'est déjà le visage de cette France d'après, l'annonce du nouveau gouvernement de Gabriel Attal hier? Est-ce qu'il vous semble d'abord correspondre aux attentes des Français, à cette opinion que vous sondez chaque jour?
Alors, il faut être un peu prudent et on va juger, et les Français jugeront aux actes. Le remaniement aujourd'hui se résume, ce qui va rester une fois que la poussière sera retombée, pour les Français, la nomination de Gabriel Attal à Matignon et l'entrée surprise, le coup médiatique de Rachida Dati au ministère de la Culture. Une fois qu'on a dit ça et que la poussière sera retombée, que restera-t-il de tout cela? Parce que les gens qui ont l'habitude de faire des feux de cheminée ou du barbecue, ils savent qu'il y a deux types de bois, et les bois qui font de la flamme et ceux qui font de la braise. Et donc là, pour l'instant, on a de la flamme, c'est-à-dire que ça marque les esprits, toutes les plateaux et les matinales.
La surprise d'Atti, c'est le titre du journal Le Parisien aujourd'hui en France.
Voilà, il y avait la surprise Attal et donc il y a une deuxième surprise. Bon, une fois que tout ça sera retombé, parce que les Français regardent ces événements avec un peu de distance et de prudence, il faudra voir la marque et la trace qui va être imprimée dans les mois qui suivent, avec des éléments, pour revenir à votre question, intéressants, dans les propos qu'a tenus Gabriel Attal lors de sa première interview télévisée.
On va d'abord écouter déjà ce mot d'action qui est le mot qu'il a martelé. On l'écoute.
Moi, ce que je veux, c'est de l'action, de l'action, de l'action, des résultats, des résultats, des résultats. Et puis c'est l'énergie des femmes, des hommes engagés à 200% pour répondre aux attentes des Français.
Ça, c'est pas une grande surprise, mais disons qu'il le martèle, quoi.
Voilà, donc, et il avait dit d'autres choses avant, en disant, moi, ma méthode, c'est de décrire et de dire le réel. Et ça, je pense que c'est très important, on en avait déjà parlé ensemble, c'est-à-dire poser un diagnostic sur l'état du pays qui soit en phase avec ce que ressentent une majorité de Français. Parce que si le diagnostic que vous posez ne correspond pas à ce que les Français voient de leur fenêtre, c'est même pas la peine d'aller à l'étape d'après. Donc ça, c'est un élément intéressant.
Et sur lequel il avait jusqu'à présent été plutôt bien jugé par les Français.
Il a été bien jugé, tout à fait, notamment dans sa prise de poste au ministère de l'Éducation nationale. Donc on va voir si la méthode Attal peut encore se déployer et si on lui laisse le faire depuis l'Élysée notamment. Et puis, le deuxième étage de la fusée, si je puis dire, c'est, une fois qu'on a posé le diagnostic, est-ce qu'on est en capacité d'agir? Est-ce qu'on agit concrètement? Est-ce que à relativement brève échéance, nos concitoyens voient des changements dans leur vie quotidienne? C'est tout l'objectif de ce remaniement. Quand on regarde les enquêtes d'opinion,
on est sous les yeux,
bouteille à moitié pleine, à moitié vide. À l'IFOP, récemment, 49% disaient que ce Premier ministre était capable de réformer le pays. 1 sur 2, c'est pas si mal, mais un sondage de nos confrères qui était publié sur votre antenne indiquait que pour 2/3 des Français, ce nouveau gouvernement serait pas de nature à créer une nouvelle dynamique. Donc il y a une grande perplexité.
Ce gouvernement ne donnera pas un nouvel élan. C'est le sondage Elabe, en effet, qu'on a publié hier soir, c'est-à-dire 63%. Ils estiment aussi qu'il ne marquera pas ni un changement de style, ni un changement de méthode. Même si Gabriel Attal a une bonne image, il est considéré comme audacieux par 66%, sympathique par 65% et compétent par 60%. Il est aussi considéré comme sincère. Et ça rejoint peut-être ce que vous disiez à l'instant, Jérôme Fourquet.
Donc là, les Français attendent de voir. Et donc, une fois que la flamme de notre barbecue se sera éteinte, on verra s'il y a la braise et s'il y a la capacité à agir.
J'ai
dans
l'impression que vous en doutez un peu. En tout cas, vous n'en êtes pas du tout sûr.
Les Français en tout cas jugeront sur pièce. Et le but de ce remaniement, c'était justement de produire cet effet de surprise, ce nouvel élan. On rappelle la séquence, l'adoption poussive de la loi immigration, les fractures au sein de la majorité gouvernementale et Emmanuel Macron cherchait à reprendre la main à brève échéance. C'est plutôt réussi. On voit qu'il y a des difficultés dans le camp de l'opposition chez les Républicains, avec le débauchage de Rachida Dati, qui a été automatiquement et immédiatement exclu
du parti
LR. Des Républicains. Mais il faut voir maintenant, dans la durée, et notamment dans les prochains mois, dans la perspective des européennes, si ce gouvernement est en capacité d'obtenir un certain nombre de résultats. On voit, ce qui a été moins commenté également, que Gabriel Attal a aujourd'hui comme directeur de cabinet Monsieur Moulin.
Emmanuel Moulin, un ancien proche de Nicolas Sarkozy,
directeur
Bruno
du Trésor, qui était camarade de promotion d'Alexis Kohler, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Et donc on voit
Il est bien avec tout le monde, j'ai l'impression, ce garçon.
Alors, il est bien avec tout le monde, mais il est un pur produit de l'appareil d'État. Et on serait aux États-Unis, on parlerait d'un État profond. Et donc on voit que c'est l'État profond qui pilote toujours en France. C'est-à-dire qu'on a deux directeurs de cabinet, à Matignon et à l'Élysée.
J'essaie de comprendre ce que vous voulez dire par État profond, c'est-à-dire un État
une technostructure.
Quel que soit ce qui change à la surface, c'est-à-dire quel que soit le passage de la droite à de la gauche ou quoi que ce soit, est là en profondeur et dirige vraiment le pays. Quoi.
Bah, c'est eux qui tiennent en fait les manettes. Alors bien évidemment...
C'est la haute fonction publique.
C'est la haute fonction publique.
C'est les serviteurs de l'État.
Exactement, les grands commis de l'État, mais qui sont aussi marqués par une certaine orientation politique et économique, hein, c'est le directeur du Trésor, il est passé dans des grandes structures privées, donc ce qui est absolument pas condamnable, mais le logiciel...
Pas franchement un homme de gauche.
Non, bah alors même si dans sa jeunesse, il était rocardien, bon voilà, mais on est bien là-dessus, c'est-à-dire c'est la technostructure qui aujourd'hui gère le pays.
Quand j'écoute ce que vous dites, il y a aussi la question de la capacité réelle de Gabriel Attal à piloter les choses, c'est-à-dire est-ce qu'il n'est qu'un Premier ministre de façade ou est-ce qu'il va vraiment pouvoir tirer les ficelles? C'est aussi la question du rapport à l'autorité. Il a fait du mot autorité un de ses mantras. Est-ce qu'il va déjà, rien que lui, réussir à l'asseoir cette autorité sur les autres ministres notamment?
Ah bah ça, là aussi, ça va se jouer dans les jours et les semaines qui viennent. Vous savez, c'est souvent la première impression qui imprime sa marque sur l'idée qu'on se fait d'une personne ou d'une situation. Donc là, ça va jouer très prochainement. De ce point de vue-là, le fait qu'il soit allé dans un commissariat flanqué de Gérald Darmanin, et on a vu, tout le monde a vu les images où manifestement Gérald Darmanin n'était pas forcément hyper joyeux d'être là.
Et il ne pouvait rien dire.
Il n'a
pas eu la parole.
Et donc là, ça a été une...
Il écoutait presque religieusement Gabriel Attal.
Tout à fait. Donc là, ça a été une première prise de pouvoir par le Premier ministre qui assoit sa légitimité. Encore faut-il ensuite arriver à faire ça dans la durée. Comment tout ça va s'organiser entre l'Élysée, j'ai parlé de l'État profond, les grands barons qui sont tous confortés à leur place, hein, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Dupond-Moretti et le ministre Sébastien Lecornu.
Ministre
des Armées. Donc comment le nouveau Premier ministre, tout talentueux, dynamique, énergique et jeune soit-il, arrive à trouver sa place. Donc c'est tout ça qui va se jouer dans les semaines et les mois qui viennent.
La question des équilibres politiques...
Voilà, c'est assez clair.
Il y a plus de en même temps. Enfin, c'est pas la droite et la gauche.
Non, là, c'est la confirmation. La il y a 8 ministres de plein exercice sur 14 qui sont clairement estampillés de droite. Ça ne veut pas dire que les 6 autres sont de gauche, hein, puisqu'il y a un ou deux modèles. Donc, on est clairement là-dessus. Donc, on verra s'il y a un petit rééquilibrage derrière avec les ministres délégués, les secrétaires d'État. Mais la grande ligne est celle-ci. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron tire les pleines conclusions de la séquence politique de 2022, c'est-à-dire on a un pays qui quand même penche nettement à droite. Il a essayé d'envoyer un message à l'électorat de gauche au moment des législatives avec la nomination de Pape Ndiaye à l'éducation nationale, ce qui manifestement a fait chou blanc. Et donc les conclusions ont été tirées que désormais c'est vis-à-vis de la droite qu'on va clairement s'adresser, à ceci près que on ne va pas jusqu'à un accord en bonne et due forme de gouvernement avec les Républicains pour élargir la majorité et, j'allais dire, aller chercher les 45 voix.
Ils auraient pu le tenter. C'est-à-dire que quand on voit l'arrivée de Rachida Dati, qui pour le coup était un vrai pilier de LR, alors
oui,
de manière
fait.
Très singulière, parce que ça a toujours été une personnalité très singulière, mais elle a pleinement assumé un rôle dans son parti. Les dernières élections, elle était toujours là pour porter la voix des LR.
Très haut placée dans les instances internes.
Est-ce qu'il aurait pu être tenté de dire, bon, bah écoutez, avec une personnalité comme elle, on la garde. Elle disait, je veux rester chez les LR. Le coup près est tombé, comme vous le disiez, de manière immédiate. Est-ce que ce n'est pas une erreur de la part des Républicains de refuser qu'il y ait cette éventuelle alliance?
Je pense que c'est le problème se pose dans des termes un peu différents. C'est soit il y a un accord de gouvernement entre le parti sur un certain nombre de textes d'orientation politique et on fait rentrer dans le gouvernement et la majorité des figures qui viennent des Républicains.
Mais ce ne serait pas un débauchage personnel comme
Mais ce
ne
serait pas un débauchage personnel. Et donc, Emmanuel Macron, fidèle à sa stratégie, ne veut pas aller sur le terrain d'un accord politique en bonne et due forme, mais poursuit la stratégie de débauchage. Ce qui rend fou furieux les Républicains, parce que ça commence à faire beaucoup quand même. Vous avez Bruno Le Maire, Rachida Dati, Monsieur Sébastien Lecornu, Monsieur Béchu.
Tout ça vient des LR.
Et comme vous le disiez tout à l'heure, à des postes qui n'étaient pas
Catherine
des moindres. Des gens qui étaient Catherine Vautrin désormais, etc., etc. Donc, on est dans la volonté de s'adresser à l'électorat de droite, de continuer de déstabiliser les Républicains, sans passer par la case accord en bonne et due forme. Est-ce que ça va être suffisant? L'avenir le dira. Encore une fois, vous me trouvez très prudent, mais au même poste qu'occupe aujourd'hui Rachida Dati, au moment de la nomination du gouvernement Castex, il y avait une autre surprise, c'était l'entrée de Roselyne Bachelot. Oui. Au gouvernement. Et on a vu ce que ça avait donné. Et donc, au bout de quelques mois ou quelques semestres, le pétard a fait un peu pchit. Et donc, il a fallu remanier et repasser à autre chose. Donc, les réponses à vos questions, on les aura dans les prochains mois.
En tout cas, si je vous écoute, vous dites la France est de droite. Et ce gouvernement est désormais raccord donc avec l'état d'esprit du pays.
Alors, on le voit dans la composition du gouvernement, mais également aussi dans les termes. Les mots qui sont choisis et les orientations qui sont données à ce qu'on peut en connaître par Gabriel Attal, qui parle de réarmement moral et civique, de retour de l'autorité, de libération des énergies sur le plan économique. Et donc on est sur des thématiques où un vocabulaire qui fleure bon, le vocabulaire qui est habituellement employé par la droite. Et donc on attend, comme vous disiez, où certains attendent le en même temps, c'est-à-dire est-ce qu'il y a d'autres des signaux qui vont être envoyés.
Est-ce que vous y voyez dans les premiers pas de Gabriel Attal, certains ont dit, et d'ailleurs la gauche s'empresse de parler d'un gouvernement Sarkozy, il a parlé de la France qui se lève tôt dès son premier déplacement, il a été chercher une Rachida Dati qui est clairement identifiée à Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il y a cette patte-là?
On le sent, alors il se dit qu'il a été reçu à déjeuner par l'ancien président de la République quelques temps avant sa nomination. Mais son énergie, sa détermination, les thématiques qu'il tente de préempter sur le travail, l'autorité, les règles, etc., etc. Quand vous mettez en parallèle un certain nombre d'images, de propos de Gabriel Attal avec ce que pouvait faire à sa grande époque, notamment dans sa stratégie d'accession au pouvoir Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur, il y a quand même des ressemblances qui sont assez parlantes. D'aucuns ont dit que Gabriel Attal était un bébé Macron. Moi, je considère que, en termes de style et aujourd'hui en termes d'orientation idéologique, si tant est qu'elle soit confirmée, on est plutôt dans une inspiration de sensibilité sarkozyste.
Plus un bébé sarkozyste qu'un bébé Macron. Jérôme Fourquet, cette jeunesse, justement, aujourd'hui dans les derniers sondages d'opinion, vous en avez fait et là, on a fait. C'est même pas une question pour les Français.
Non, alors c'est plutôt quelque chose qui est jugé positivement. 60% des Français et 75% de l'électorat de droite considèrent que Gabriel Attal, c'est un peu le moins, renouvelle le personnage politique.
Mais c'est absolument pas un handicap qu'il n'ait que 34 ans.
Non, et au contraire, c'est plutôt une demande. Et là aussi, je pense que c'est quelque chose auquel Emmanuel Macron a eu cœur de répondre. C'est qu'il a diagnostiqué que la vague dégagiste qu'il avait portée au pouvoir en 2017 était toujours active. Et qu'il fallait donner...
Y compris, du coup, sur ses propres troupes.
Et qu'il fallait sauter une génération et envoyer un message de la poursuite de ces...
Sauter une génération, ça veut dire que quelqu'un comme Édouard Philippe, qui d'ailleurs n'a absolument pas réagi, ni à quelques micros que ce soit, ni même sur son compte Twitter, il n'y a pas un mot depuis la nomination de Gabriel Attal.
Il y a un effet un peu de sidération. Ensuite, ils se disent qu'ils auront toujours le temps de s'exprimer. Ils vont voir comment le vent va tourner. Ils peuvent aussi considérer que c'est qui tout double. C'est-à-dire que soit Gabriel Attal réussit dans ses fonctions à Matignon, que ça devient un concurrent dans la course à la succession d'Emmanuel Macron très sérieux, soit, comme on dit dans le jargon, il se grille, il se brûle à Matignon, et ça fait un rival ou un concurrent de...
Et on dit qu'ils se sont parlé, mais en effet, aucune prise de parole publique sur ce point. Autre question de duel ou de concurrence, Jordan Bardella, lui-même encore plus jeune, qui sera la tête de liste du Rassemblement National, qui est donné favori pour les prochaines élections européennes. Est-ce qu'il peut s'installer une forme en effet de duel? Est-ce que l'arrivée de Gabriel Attal peut être un obstacle sur la route du RN?
Alors là encore, on verra, mais c'est clairement l'ambition d'Emmanuel Macron, je pense, et des stratèges de la Macronie, que d'installer ce duel dans un premier temps pour les européennes, et puis peut-être par la suite en disant il faut qu'on fasse pièce à la montée de Jordan Bardella, qui surfe notamment sur sa jeunesse. Ne résumons pas ces deux individus uniquement à leur état civil, hein. Ils ont bien d'autres qualités que d'être nés à la date à laquelle ils sont nés. Mais Emmanuel Macron essaye de mettre en orbite quelqu'un qui soit dynamique et qui puisse, sur le créneau de la jeunesse et des débats, tenir la dragée haute à Jordan Bardella. Ce faisant, on installe une nouvelle génération politique qui vient quelque part un petit peu ringardiser, entre guillemets, personnalités qui sont un peu plus âgées.
Ce qui serait des générations au-dessus. Jérôme Fourquet, il est 8h47 et on apprend à l'instant les chiffres de l'inflation. Ce sont les chiffres de l'INSEE. 3,7% pour le mois de décembre. C'est une très légère remontée dans globalement quand même une baisse. Le pouvoir d'achat reste une priorité absolue
des Français.
Ça n'a pas été immédiatement. Alors, le travail, oui, a été un des mots utilisés par Gabriel Attal. Il n'a pas beaucoup parlé pouvoir d'achat. Est-ce que là, il ne fait pas fausse route ?
Alors, il faut voir les marges de manœuvre dont vous disposez. C'est-à-dire qu'on peut parler du pouvoir d'achat. Il ne faut pas faire de fausses promesses aux Français. Quelqu'un qui a été confirmé dans ses fonctions depuis l'élection d'Emmanuel Macron à Bercy, Bruno Le Maire, rappelle à juste titre, madame midi et soir, qu'il y a 3 000 milliards de dettes en France. Et donc, on a déjà dépensé beaucoup en termes d'argent public au moment du quoi qu'il en coûte. Et qu'aujourd'hui, les marges de manœuvre sont assez réduites. Et donc, je pense que c'est pas une erreur d'appréciation de la part de l'exécutif ou une méconnaissance de la réalité du pays. C'est le fait qu'il n'y a pas forcément beaucoup de grains à moudre, comme on redit un syndicaliste d'antan, pour le gouvernement sur cette question du pouvoir d'achat. Sauf à, thématique sarkozyste, baisser les impôts des classes moyennes, ce que Gabriel Attal a annoncé. Donc on verra quelles modalités seront retenues.
Il a distingué, et il le faisait déjà lorsqu'il était à Bercy, mais il l'a fait aussi dès ses premières interventions, il a distingué, et il le fait régulièrement, ceux qui travaillent, qui doivent gagner leur vie par leur travail, et ceux qui ne travaillent pas, qui doivent moins bien, c'est-à-dire la distinction doit être nette et doit s'accentuer. Est-ce que ce n'est pas une manière de diviser ?
Alors, d'aucuns verront ça de cette manière-là. Nous, quand on réalise à l'IFOP des enquêtes, on voit que ce sujet revient quand même assez régulièrement. Vous avez 17% de la population active qui est au SMIC. Et donc, le SMIC, aujourd'hui, comparé à un certain nombre de minima sociaux, avantages divers et variés, n'offre plus, dans certains cas, il faut pas caricaturer, mais dans certains cas, une prime ou un écart très important ou très significatif avec le niveau de vie dont pourraient bénéficier, encore une fois, dans certains cas, certains ménages qui ne travailleraient pas. Et donc ça, c'est quelque chose qui revient de manière lancinante. Et le fait que Gabriel Attal s'engouffre dans ce sujet-là, là aussi, ça nous renvoie aux années Sarkozy. C'est-à-dire que un des mantras du Sarkozy, c'était « il faut que le travail paye ». Sous-entendu qu'il paye davantage que les revenus de l'assistance. C'était, vous vous souvenez, cette fameuse formule sur la France qui se lève tôt. Donc on est là-dessus. Quand Gabriel Attal était dans des précédentes fonctions à Bercy, il avait engagé des actions contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale des grands groupes, mais également contre la fraude sociale. Il était déjà sur cette thématique. Donc il y a une forme de cohérence et de constance. On verra, encore une fois, s'il est en capacité de...
De passer du diagnostic ou des mots à un changement réel pour les Français. Vous avez l'air de dire que c'est vraiment là-dessus qu'il sera jugé.
Tout à fait, dans les prochains mois, et notamment sur cette question de la différence entre revenus du travail et revenus de l'assistance pour tous ceux qui sont 17% de Français qui sont au SMIC, plus toute une partie qui est juste au-dessus.
Nombre de Français au SMIC qui augmente.
Et qui augmente, plus parce que du coup, vu la révalorisation du SMIC, le SMIC finit par rattraper des salariés qui sont dans les échelons qui étaient juste au-dessus, qui ne sont pas, eux, forcément réindexés automatiquement.
Merci Jérôme Fourquet pour toute cette analyse ce matin, alors qu'on a appris donc hier soir la composition de ce gouvernement. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La France d'après, tableau politique. On y est dans cette France d'après, et justement on va la voir avec les passations de pouvoir à venir. Il est 8h51 sur RMC et BFM TV.